dans l'actualité des idées aujourd'hui. Peut-on trouver sa place dans l'exil? Notre grand invité, l'historien Enzo Traverso, enseignant à l'université Cornell de New York, à l'occasion de la réédition augmentée de La pensée dispersée, figure de l'exil juif, aux éditions Ligne, où il étudie l'histoire du XXe siècle à travers les œuvres phares et les correspondances croisées de penseurs judéo-allemands en exil. Hannah Arendt, Siegfried Krakauer, Walter Benjamin ou encore Theodor Adorno. Spécialiste du totalitarisme et de la question juive en Europe, dans les nouveaux visages du fascisme, conversation avec Régis Méran paru l'an passé chez Textuel, Enzo Traverso analysait le succès aussi des discours autoritaires dits post-fascistes de Donald Trump à Marine Le Pen. Dans son précédent essai « Mélancolie de gauche, la force d'une tradition cachée à la découverte », il revenait sur les défaites successives qu'elle a subies, la gauche, et sur le nécessaire travail d'inventaire pour se reconstruire. Beaucoup de sujets à aborder donc avec vous aujourd'hui. Bonjour Enzo Traverso.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Dans l'avant-propos de cette nouvelle édition de La pensée dispersée, vous estimez, Enzo Traverso, que les principales occasions de réflexion sur l'exil ces dernières années ne sont pas venues du renouveau historiographique, mais plutôt de l'actualité. De quelle actualité parlez-vous, Enzo Traverso ?
Bah, bien évidemment, je faisais allusion au problème des réfugiés qui est au centre du débat politique dans l'Union européenne en particulier et qui est constamment relié à la question d'une manière perverse à la question de l'immigration et de les identités nationales européennes. Et donc il me paraissait évident reproposant ce vieux livre enrichi, mais un livre qui a été écrit pour la plupart dans les années 90, il me paraissait évident connecter tout ce débat qui désormais s'inscrit dans l'histoire du XXe siècle à une actualité brûlante qui est celle des réfugiés dans l'Europe d'aujourd'hui. Et donc le constat qu'il faut faire, c'est que l'exil judéo-allemand ou l'exil des juifs européens dans les années entre les deux guerres n'est qu'un fragment finalement d'une histoire qui les dépasse largement, dont ils ont été peut-être un révélateur particulièrement visible pour l'éclat de leur production et de leur créativité, mais ils n'ont été qu'un fragment d'un problème beaucoup plus vaste qui est celui de la globalisation et du mouvement des êtres humains et des idées dans le monde global.
Et vous écrivez, Enzo Traverso, dans l'avant-propos à Évian, en 1938, les grands de la planète se quittèrent sur un constat, personne ne voulait accueillir les réfugiés juifs. Aujourd'hui, nous avons multiplié les commémorations de l'Holocauste, mais nos politiques à l'égard des réfugiés de ce début du XXIe siècle n'ont point changé. Le spectacle écœurant qui se répète à chaque sommet européen, avec nos gouvernants toujours prêts à invoquer les droits de l'homme et parallèlement à fermer soigneusement les frontières de leurs États, suscite des bien tristes souvenirs. Ce spectacle, on peut le voir, ou on a pu le voir dans une vidéo récemment mise en ligne, il y a 3 jours sur le site de Libération, une vidéo de 16 minutes publiée par le New York Times fin décembre. C'était une opération de sauvetage d'une embarcation de 150 migrants en Méditerranée à l'automne 2017 par le bateau de l'ONG Sea-Watch après l'intervention des gardes-côtes libyens aux naufragés.
In 2016, the European Union and Italy made an abrupt decision to outsource rescue operations here.
En 2016, l'Union européenne et l'Italie ont subitement décidé de confier les opérations de sauvetage à un nouveau partenaire, les gardes-côtes libyens. Une politique aux conséquences meurtrières. Avec les chercheurs du Forensic Architecture et Forensic Oceanography, nous avons reconstruit la journée du 6 novembre pour vous montrer comment cette politique a tué au moins 20 personnes en une journée. 2 heures après avoir été contactés par les Européens, les gardes-côtes libyens sont les premiers sur les lieux.
Le bateau libyen arrivait à toute vitesse. Les vagues étaient si fortes, les gens tombaient dans l'eau. La moitié des passagers sont tombés à l'eau. Comme je ne sais pas nager, une vague m'a emporté au loin. Les gens autour de moi étaient dispersés. Certains ne pouvaient pas rester à la surface, donc la plupart sont morts.
Observez comme le bateau libyen est près du canot, ignorant les techniques standards de sauvetage. Des migrants sont passés sous le bateau.
Ce jour-là, 20 personnes se sont noyées et une plainte a été déposée auprès de la Cour européenne des droits de l'homme au nom des 17 survivants contre l'Italie, votre pays, Enzo Traverso. Ce que montre bien cette vidéo, c'est comment année après année, après d'ailleurs, si on prend le cas d'Italie, des mois d'accueil, et ça a été le cas aussi à Lampedusa, où beaucoup de migrants arrivaient, les ports italiens étaient ouverts. Petit à petit, des contrats ont été passés avec des pays comme la Libye pour déléguer, transférer une partie de la gestion de ces tâches, de ces obligations humanitaires que les pays européens peuvent avoir. C'est aussi ça que vous vouliez montrer, raconter aujourd'hui avec la pensée dispersée, cette question de l'exil vue aujourd'hui en 2019.
Oui, la résonance me paraît absolument frappante entre une analogie, les analogies ne sont jamais des homologies et donc les analogies nous aident aussi à comprendre les différences qui séparent deux expériences historiques. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans les années 30, nous sommes dans un contexte qui est très différent, mais ces analogies sont vraiment très frappantes. Et de ce point de vue-là, ce qui se passe en Italie est dramatique. Mais je voudrais quand même souligner un aspect qui me paraît important. Depuis quelques mois, nous avons en Italie un ministre de l'Intérieur qui est aussi vice-premier ministre qui revendique le rejet des migrants et des réfugiés, qui proclame haut et fort sa xénophobie et son racisme et cette libération d'une voix xénophobe et raciste a des conséquences non seulement plus que symboliques. On l'a vu déjà aux États-Unis avec l'élection de Donald Trump. Mais il me semble important de souligner que dans les faits, rien n'a changé. Disons, il y a une rhétorique qui s'est endurcie, qui s'est exacerbée. Il y a un racisme et une xénophobie qui sont aujourd'hui ouvertement revendiqués. Mais la politique du gouvernement italien actuel vis-à-vis des migrants et des réfugiés est la même que celle menée par le gouvernement de centre-gauche antérieur. Les accords avec les autorités libyennes afin de stopper les départs et d'enfermer les migrants dans des camps de rétention qui sont en fait des camps de concentration à plusieurs égards, c'est quelque chose qui ne date pas d'aujourd'hui et qui se fait avec l'accord de l'Union européenne. C'est cela qui fait vraiment une affinité avec les derniers sommets de l'Union européenne rappellent de près la conférence d'Évian. S'est réunis pour dire qu'on ne peut rien faire.
Est-ce que, comme l'un de vos confrères, vous allez plus loin encore, Enzo Traverso, et vous diriez aujourd'hui qu'une forme de racisme, de xénophobie est inhérente à l'Europe, qu'elle appartient, comme dit Alberto Bourgio, au code génétique de la modernité européenne, dans le sens où l'Union se serait construite avec et autour ce rejet de l'autre?
Je pense que ce qui se passe maintenant nous aide à mettre dans une perspective historique cette vaste question des réfugiés. Selon les chiffres donnés par l'Office pour les réfugiés des Nations Unies, 65 millions de réfugiés dans le monde. Alors, la situation actuelle nous permet de mettre ce phénomène dans une perspective historique et de le comprendre beaucoup mieux qu'on ne pouvait le faire dans la période de l'entre-deux-guerres. Et pendant longtemps, c'est une tendance qui a été renforcée par tous les travaux et nombreux, considérables, de l'historiographie sur le sujet. On avait interprété le problème des réfugiés dans les années entre les deux guerres comme un problème lié à l'avènement des fascismes et des totalitarismes. Aujourd'hui, il n'y a pas de totalitarisme. L'Union européenne, malgré la montée des droites radicales, reste un ensemble de démocraties libérales. Et pourtant, le problème est... Donc, en réalité, la question des réfugiés nous aide à comprendre les apories de la modernité, effectivement, de notre modernité politique occidentale. Hannah Arendt avait compris cela déjà dès les années 40. C'est la question de l'État-nation. Il y a une sorte de incompatibilité fondamentale, matricielle, entre les droits de l'homme d'un côté et les souverainetés nationales de l'autre. Et nous vivons une époque dans laquelle la globalisation remet en cause le principe même de la souveraineté nationale, mais par une sorte de réaction, ces souverainetés se renforcent. C'est les États-nations qui, face à cette perte de leurs prérogatives et face à leur déclin, réagissent par une sorte de surenchère. Et les boucs émissaires de cette contradiction et de ce processus sont les migrants et les réfugiés.
Ce qui expliquerait que les partis d'extrême droite dans les pays européens ou les partis nationalistes sont aussi eurosceptiques, alors que dans le même temps, vous nous dites que ces politiques mises en œuvre le sont avec l'accord de l'Union européenne qui, à l'échelle européenne, ne fait pas beaucoup mieux sur cette question-là.
Oui, ces nouveaux mouvements xénophobes et nationalistes voudraient rétablir les frontières nationales, voudraient rétablir les souverainetés qui existaient à l'époque, à l'âge d'or des États-nations. Leur posture est profondément réactionnaire au sens presque technique et littéral du terme.
Mais pourquoi ça veut bien dire alors que l'Union européenne quelque part les entrave, freine ce qu'ils souhaiteraient eux mettre en place s'ils veulent un retour des frontières?
Oui, mais l'Union européenne est paralysée parce que elle est remise en cause par ses politiques, par ses nouvelles droites qu'on appelle couramment populistes, mais elle est aussi otage de ces mouvements, de ces courants, et elle ne propose pas une alternative. Je ne vois pas parmi les chefs d'État des pays de l'Union européenne, je ne vois nulle part un projet fédéraliste, par exemple, sérieux, cohérent, qui soit mis en avant pour faire face à la montée de la xénophobie. Et donc, prise dans cette contradiction, l'Union européenne est en train, petit à petit, de se décomposer. Avec des conséquences qui peuvent être aussi dramatiques.
Et vous écrivez, Enzo Traverso, l'arrivée de parias venant d'Afrique et du Moyen-Orient musulmans ferait le jeu de l'extrême droite. On propose donc de stopper la montée de l'extrême droite en empruntant ses idées. Au lieu d'accueillir les réfugiés, on préfère payer les mafias libyennes pour qu'elles les enferment dans des centres de rétention. Le résultat a été la transformation de la Méditerranée en un un immense cimetière. Par où tout cela a commencé? En quoi aussi la montée de ces voix nationalistes sont une réponse à cette question des migrants que l'Europe n'a pas su aborder, n'a pas su aussi accueillir? Je vous propose d'écouter alors une voix de chez vous, Matteo Salvini, patron de la Ligue, actuel ministre de l'Intérieur, tel qu'il était accueilli dans un meeting en son honneur, c'était en octobre dernier.
Dans cette fête de la Ligue, à quelques kilomètres de la frontière avec la Slovénie, les objets à l'image de Matteo Salvini font un tabac. Un accueil de rockstar lui est réservé. Ce soir, ils sont plusieurs centaines de militants venus écouter leur champion. Dans son fief, tous sont conquis par son style décontracté, son franc-parler et son positionnement souverainiste.
Les Italiens d'abord, c'est nous qui avons plus de droits, pas les clandestins. Ici, on lit « La fête est finie », c'est un message aux immigrés. Ces gens qui arrivent ici pour que nous les prenions en charge.
Je ne suis pas raciste, et je pense que lui non plus. Mais il y a une invasion qui est en cours.
Un des secrets de cette popularité, c'est sans doute sa proximité avec son électorat.
Qualcuno vuole fare una foto? Perfetto.
Une recette gagnante. Depuis son arrivée à la tête du ministère de l'Intérieur, sa cote de popularité ne cesse de monter.
Alors, une initiative est apparue récemment, celle du vice-premier ministre Luigi Di Maio, le chef de file du mouvement 5 étoiles, qui s'est démarqué de Matteo Salvini, le chef de la Ligue, sur cette question des migrants, en proposant d'accueillir les femmes et les enfants des deux bateaux toujours retenus actuellement, les bateaux Sea-Watch 3 et le Sea-Eye, bloqués en mer Méditerranée depuis décembre, appuyé Di Maio par le Premier ministre Giuseppe Conte. On voit une coalition qui est en train de se fissurer, de se diviser. Néanmoins, c'est toujours Matteo Salvini qui reste très populaire dans ses décisions, dans ses choix. Comment vous l'expliquez ?
Le mouvement 5 étoiles n'a jamais eu une position cohérente sur cette question. Et maintenant, il se retrouve à jouer paradoxalement un rôle secondaire, un rôle, on pourrait dire, allié, subordonné de Salvini, alors que le mouvement 5 étoiles, lors des élections de l'année dernière, avait fait un score qui était le double que celui de la Ligue Nord de Salvini. Mais maintenant, ce mouvement paye le prix de son ambiguïté et de ses propres contradictions. Il y a une opinion publique qui réagit, par exemple, cette insubordination des maires qui ont annoncé qu'ils n'appliqueront pas le décret annoncé par Salvini. Le mouvement 5 étoiles s'était présenté aux élections contre la Ligue du Nord. Et beaucoup de gens qui refusent la xénophobie, le racisme et les politiques proposées par la Ligue du Nord ont voté pour le mouvement 5 étoiles. Et aujourd'hui, face à un gouvernement qui mène cette politique avec la co-responsabilité des leaders du mouvement 5 étoiles, ils sont comme dans une sorte de paralysie et d'impasse. Il faut réagir, il faut trouver... L'initiative des maires peut être un déclencheur d'une réponse.
C'est une fronde qui peut avoir du poids, vous pensez aujourd'hui, cette initiative des maires qui conteste le décret Salvini sur la sécurité et l'immigration, et notamment cette mesure qui abolirait les permis de séjour humanitaires aux personnes vulnérables, qui veut appliquer les mêmes principes constitutionnels à tous sur le territoire. Ça peut avoir du poids.
Oui, mais je pense qu'il faut être clair sur un point. Ce n'est pas une question exclusivement d'humanitarisme. Bien sûr, il y a une question humanitaire. Il y a des gens dans des bateaux qui sont en danger et qu'il faut accueillir et qui nécessitent aussi des soins. C'est une Mais ce n'est pas qu'une question humanitaire. Alors, la position de Di Maio, qui consiste à dire les femmes et les enfants, parce que nous sommes généreux et nous sommes humanistes, ce n'est pas la bonne façon d'aborder cette question, qui est une question beaucoup plus profonde, qui touche à la définition même de nos communautés, de nos sociétés, de qu'est-ce que c'est que l'Europe et de qu'est-ce que l'Europe veut devenir. C'est le problème de, en Italie, il n'y a pas le droit du sol. En Italie, il y a 1,5 million de jeunes qui sont soit nés en Italie, soit arrivés en Italie quand ils étaient tout petits, qui ont fait leur scolarité en Italie, qui ne parlent, dont l'italien est leur langue, leur langue de culture, leur langue de communication, leur langue du quotidien, et qui ne sont pas citoyens italiens. Cette situation est explosive et la démagogie de Salvini peut être efficace lors des prochaines élections dans quelques mois, mais à long terme, elle va révéler toutes ses limites. Et je pense que si la gauche n'arrive pas à se doter d'un projet et à affirmer des positions claires sur cette question, les risques d'un pourrissement de sont considérables. Et l'Italie est quand même un des plus grands pays de l'Union européenne. Donc ce qui se passe en Italie a des conséquences importantes. Et on le voit déjà maintenant. J'ai été frappé en écoutant le discours de Macron lors du 31 décembre, qu'il a, d'une façon tout à fait surprenante et inattendue, il a exhumé ce couple terrible de l'immigration et l'identité nationale. On voit bien comment l'Allemagne est en train de reculer sur la question après la montée de Alternative für Deutschland lors des dernières élections bavières. Donc en Espagne, d'autres élections en Andalousie qui vont dans la même direction. Donc il y a le risque d'un saut qualitatif, d'un tournant qui risque de devenir effectivement historique et qui modifierait le profil politique de l'Europe.
C'est-à-dire que cette peur, cette inquiétude culturelle aussi, qui est manifestée par une partie des opinions publiques dans les pays européens, n'est pas justifiée pour vous aujourd'hui ? Crainte à laquelle Matteo Salvini sait répondre, hein, et qui pour l'instant, vous dites la situation est explosive, mais elle n'a pas explosé, alors qu'en France, là où les discours semblaient plus apaisés, la conflictualité réduite, le ni gauche ni droite accepté ou assumé, résultat, la fracture se traduit aussi ou se réveille dans la rue depuis quelques semaines.
Heureusement, en France, cette fracture se réveille en reposant au centre du débat des bonnes questions qui sont celles de l'égalité sociale ou des inégalités sociales qui ont été développées par le gouvernement et non pas sous la forme, disons, d'une vague xénophobe telle qu'elle se dessine en Italie. Mais encore une fois, je pense qu'il y a une pédagogie qui est nécessaire. Il faut expliquer que tous les pays de l'Union européenne ont besoin de migrants pour des raisons économiques, pour s'équiper, s'armer, disons, face aux défis posés par la globalisation, pour toute une série de raisons qu'on peut très bien énumérer, qui sont assez évidentes et qui ne sont pas difficiles à comprendre. Mais, disons, il y a un problème de fond, c'est que dans le monde global qui est le nôtre aujourd'hui, la survivance des États-nations comme des entités fermes, avec des frontières qui les enferment, qui les clôturent, est devenue une contradiction insoluble. C'est quelque chose qui remet en cause la notion même de démocratie. L'idée de concevoir la nation comme une sorte de propriété, une sorte de propriété en vertu de la naissance, et donc le sang et le sol, disons, quand on parle de ce livre sur l'exil judéo-allemand des années 30, mais si on creuse, disons, la question des réfugiés et des migrants aujourd'hui, au fond, disons, on trouve cette réaction virulente des États-nations à une menace qui serait celle d'une anomalie, d'une altérité qui remet en cause ce postulat. L'État-nation, c'est l'État d'un peuple, c'est la jonction entre le territoire et l'ethnos, et on ne peut pas comprendre la démocratie sans la rattacher à cela. Ah, donc il faut casser, il faut briser ce mécanisme, et il faut repenser une notion de citoyenneté séparée du territoire et de l'ethnie, et de la nation, tel qu'on l'a historiquement conçu. Maintenant, les historiens ont commencé depuis déjà quelques décennies à penser la nation comme une communauté imaginée et non plus comme une sorte de entité naturelle et ontologique. Eh bien, il faut aller au-delà et repenser la nation dans son caractère historiquement transitoire.
Enzo Traverso, vous l'évoquez sur les ronds-points français, vous semblez plus entendre, pour reprendre vos mots, la passion de l'égalité que l'obsession de l'identité. Néanmoins, où est la gauche? Et là, je me réfère plutôt à vos mélancolies de gauche. Au quotidien argentin Clarine, vous avez récemment affirmé que le triomphe de Bolsonaro au Brésil valait plutôt, surtout, défaite pour le PT, le Parti des Travailleurs, qui, comme les gauches européennes, devrait reconnaître ses échecs sans s'accrocher aux dogmes, en France comme ailleurs, dans l'Union européenne ou dans le monde. Pourquoi les gauches n'arrivent plus à incarner cette alternative, une alternative crédible ?
Oui, dans chaque pays, il y a évidemment des causes qu'il faut creuser, qu'il faut analyser et qui sont aussi spécifiques, mais il y a un problème historique plus général. La gauche a été dominée tout au long du XXe siècle par deux modèles, disons, hégémoniques, qui étaient le communisme d'un côté, la social-démocratie de l'autre. Ces deux modèles se sont épuisés. Le modèle socialisme réel s'est effondré en 1989 pour des raisons qui sont parfaitement compréhensibles. La fin du socialisme réel n'a pas donné lieu à une renaissance de la social-démocratie. La social-démocratie aussi a épuisé son rôle historique et aujourd'hui, tous les partis sociaux-démocrates de gouvernement ne font qu'accompagner des politiques néolibéral. Donc on a besoin de penser un nouveau modèle qui soit aussi fort, aussi efficace que l'ont été le communisme et la social-démocratie au XXe siècle. Il y a toute une série de signes qui émergent en Grande-Bretagne, Corbyn, aux États-Unis, l'émergence de ce qu'on appelle le socialisme démocratique à la marge du Parti démocrate, ou Podemos en Espagne, quelque chose. Et en France, les gilets jaunes, au fond, sans aucune représentation politique, posent cette exigence. passe. Et donc, je pense qu'il y a un processus moléculaire qui risque de se disperser et pourrait aussi coaguler quelque chose de nouveau.
Cette exigence portée par les Gilets jaunes, pour vous, Enzo Traverso, est-ce qu'elle peut trouver ou est-ce qu'elle doit maintenant trouver une traduction politique? Vous citiez l'exemple de Podemos, c'est vrai que c'est la grande différence aujourd'hui avec la France insoumise. Le premier en Espagne est issu d'un mouvement social. Le second, on le voit en ce moment, essaye d'élargir peut-être sa base populaire avec ce mouvement en s'y rattachant. Mais de la part du mouvement des Gilets jaunes, toute une méfiance qui se met en place, la peur d'une récupération par des partis. Est-ce que pour que ce mécontentement des Gilets jaunes doit trouver maintenant une traduction ou est-ce qu'il peut continuer à vivre comme tel et produire des effets sur la scène politique néanmoins?
Je l'espère. Ce mouvement pose non seulement la question des inégalités sociales et met en avant une demande d'égalité, mais le mouvement des Gilets jaunes pose aussi un problème de représentation politique. Ce sont les invisibles qui demandent à être reconnus et écoutés. Ça, c'est une question démocratique. Si j'ai bonne mémoire, j'écoute les émissions de France Culture. C'est ce que vous avez dit il y a une semaine, Jacques Rancière, lors d'un autre entretien. Or, je ne vois pas dans la gauche française actuelle la capacité de répondre à cette exigence. La France insoumise, c'est construite autour d'un modèle politique qui ne me paraît pas à même de répondre à cette exigence aussi de démocratie horizontale. Donc c'est un mouvement qui lance un défi à la gauche et qui, pour être relevé, implique des remises en cause, implique tout un travail de réflexion critique.
On est tous à chercher
et je parle de la France insoumise qui est le mouvement qui est le plus proche, évidemment, des Gilets jaunes et qui a pu jouer un rôle aussi dans ce mouvement. Mais la gauche doit se réinventer. Et moi, je n'ai pas la prétention de dire de quelle manière, c'est un constat nécessaire.
Sinon quoi ?
Sinon, le risque est effectivement celui d'un pourrissement et d'une sortie à droite de la crise de l'Europe. Et la crise de l'Europe est une crise profonde. Est une crise du modèle européen, ce projet de bâtir l'Europe autour d'une monnaie unique. Cela est reconnu par tous les analystes et les observateurs, a fait faillite. Il faut repenser l'Europe, mais cette Union européenne est totalement inféodée, soumise, disons, à toute une série de contraintes qui sont celles du capitalisme, du néolibéralisme, du capitalisme financier. Et donc, pour l'instant, ce qui se dessine comme alternative à une décomposition de l'Europe, c'est une alternative plutôt de droite que de gauche. Donc ça, l'avertissement, le signal d'alarme qu'il faut lancer.
Et pour ce faire, vous diriez, Enzo Traverso, et on terminera là-dessus, qu'il faudrait aussi, à 4 mois des élections, si l'Union européenne veut encore avoir un avenir, elle doit se défaire, elle aussi, d'un certain nombre de ces illusions sur lesquelles elle a pu se construire jusqu'ici, pour reprendre sens.
Moi, j'irais plus loin. Je dirais même que ces illusions sont tombées depuis longtemps. Maintenant, c'est le cynisme qui les a remplacées. Ces discours qui continuent d'être d'une façon presque automatique reproposés le sont avec de moins en moins de convictions. Disons, il y a eu des tests. La question des réfugiés en a été un. L'incapacité de l'Union européenne de trouver une solution, une politique commune face à un problème qui est finalement quelque chose de marginal. L'Europe a 500 millions de citoyens et l'arrivée des réfugiés, c'est rien par rapport au nombre de réfugiés accueillis par des pays beaucoup plus pauvres que ceux de l'Union européenne, tels que le Pakistan ou l'Éthiopie, par exemple. Il y a eu la crise grecque et on pourrait aller beaucoup plus loin.
Merci beaucoup à vous, Enzo Traverso. La pensée dispersée, figure de l'exil juif, édition Revue Augmentée, qui vient de paraître aux éditions Ligne. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre donc avec vous, Enzo Traverso. Merci à Maya Neskovic et Chouchane Djergaillan, à Jean-Christophe Brianchon avec Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Jeanne Copé et de Jordan Joseph. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Ludovic Auger. Très bel après-midi à tous sur France Culture.